Bonjour à tous, bienvenue dans Les mots des livres. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en direct avec de nombreux invités. Oui, c'est encore la rentrée littéraire. Nous serons avec Yves Arthez pour Parmi d'autres solitudes, un roman paru aux éditions du Cherche Midi. Puis nous retrouverons Jean-Pierre Montal pour La Face Nord, un très beau roman paru aux éditions Segui. On retrouvera une femme, Guénaëlle Dojon, pour Le Jardin de Georges, paru aux éditions Intervalle. Et nous finirons avec Christian Laborie pour Les couleurs de l'oubli, à retrouver aux éditions Presse de la Cité. Bienvenue sur les ondes d'IDFM Radio. Je vous rappelle, vous êtes en direct sur l'émission Les mots des livres. Et avant de retrouver notre premier invité, on écoute un peu de musique. À tout de suite.
On défie l'ennui du monde nous crée. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'échec, à perdre au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps, mais laisse-moi.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invité Yves Arthez, bonjour.
Et bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre roman Parmi d'autres solitudes. C'est à retrouver aux éditions du Cherche Midi. On peut rappeler, vous êtes journaliste, grand reporter à Sud-Ouest, et ici vous nous faites découvrir votre deuxième roman, Parmi d'autres solitudes, un roman assez court. On a presque envie de dire, c'est un recueil de nouvelles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque si je dis ça?
Non, rien ne me choque, sauf que c'est pas du tout un recueil de nouvelles.
Non, évidemment. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Parmi d'autres solitudes, c'est un texte où le narrateur est journaliste, comme vous, et malheureusement, il vient de perdre son père, et il va donc dans la maison où vivait son père, et en rangeant des cartons, il va tomber sur un dossier qui porte son nom, et il va replonger quelques décennies plus tôt, où il était jeune journaliste, et il écrivait, il faisait une enquête sur des hommes et des femmes qui avaient ce point commun d'être de vivre une réelle solitude. Et d'abord, le narrateur est assez surpris hein, de tomber sur ce document, d'autant qu'avec son papa, c'était un peu compliqué. Leur relation, on le découvre au fur et à mesure de l'ouvrage. Et donc, on va revenir chapitre après chapitre sur ces fameuses rencontres, ces fameuses solitudes. C'est pour ça que je dis que c'est un recueil de nouvelles, parce que même si le fil conducteur, c'est évidemment ce rapport au papa et ces flashbacks back sur l'enfance du narrateur et la vie même de ce père qui s'appelle Henri, on retrouve aussi des chroniques, des petites histoires de ces hommes et femmes, ces solitudes. Comment avez-vous eu cette idée à la fois de raconter l'histoire de ce journaliste narrateur? Est-ce que c'est un peu de vous? Est-ce que c'est complètement fictionnel?
Il y a un peu de moi, bien sûr, parce que c'est difficile d'écrire de but en blanc sans avoir des réminiscences personnelles. Mais si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que je suis plus journaliste. Je suis parti à la retraite il y a 4 ans, 5 ans. J'étais grand reporter, puis après je me suis occupé d'un journal dans le Sud-Ouest, qui s'appelle le Sud-Ouest d'ailleurs, donc à Bordeaux. Et donc j'étais rédacteur en chef, directeur, et donc j'avais gardé tous mes papiers et tous les reportages que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune dans des malles, et toutes mes notes, si vous voulez, tous mes blogs sur lesquels j'avais pris les notes pour faire mes reportages. Et en rangeant mes papiers, je suis retombé sur ces notes là. Ça m'a donné envie d'écrire les vies que je retrouvais à travers ces bribes sur mes carnets. Et donc j'ai commencé par écrire ça, ce qui peut effectivement donner l'impression d'avoir une série de nouvelles, plus exactement de fragments de vie.
Oui, fragments.
Et comme j'étais dans la campagne, assez loin de tout, j'ai imaginé que le narrateur devait être obligé de vider une maison parce que son père était mort. Ce qui n'est absolument pas, ce qui ne m'est pas arrivé. Quoi. C'est pas du tout ma vie. Ça, c'est le narrateur est plus jeune que je le suis. Mon père est mort quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 20 ans, et non pas comme le narrateur quand il en a 40. Et donc j'ai lié les deux histoires de solitude, celle du père et du fils qui n'arrivent plus à se parler, avec d'autres solitudes que les deux découvrent, que le fils redécouvre et que le père a conservées.
Et qui sont à chaque fois assez bouleversantes, hein, parce que elles sont à la fois très éloignées de nous, et en même temps, ça nous rappelle peut-être à chacun sa propre solitude. Tout d'abord, ce café, ça commence ainsi par un café, parce que on se rend compte que autant le café, on se dit que c'est un lieu de rencontre. Et c'est aussi un lieu de profonde solitude pour certains des personnages.
Mais le café, si vous voulez, c'est les réseaux sociaux d'autrefois. Oui. Quoi. C'est-à-dire que quand les réseaux sociaux n'existaient pas, quand l'ensemble de tout ce qui a été imaginé avec la civilisation Internet n'apparaissait pas, on n'était pas encore apparu, c'était les cafés qui remplissaient cette fonction, entre autres choses. Et donc dans les cafés se réunissaient des vies qui, pendant un petit moment, se donnaient l'illusion de se retrouver, de se comprendre, de se parler, avant de replonger dans un destin qu'ils ne pouvaient pas partager. Et ça m'a amusé, si vous voulez, de rencontrer ça et de me replonger dans une époque qui n'existait plus.
Et on voit aussi hein, que le narrateur, c'était aussi un endroit où il pouvait rencontrer ces hommes et ces femmes. C'est un endroit qui est à la fois neutre et qui est plein de gens, donc manière un peu antinomique, mais qui permet au narrateur de recueillir ces témoignages.
D'une part, et puis également, c'est qu'il lui permet de comprendre que au-delà des vies personnelles, il y avait un profond désir de communiquer, ce qui fait que ce livre-là, en fait, est également une histoire de transmission, une histoire de comment arriver à se comprendre. Et finalement, le message d'espoir qu'il y a, enfin, que je pense qu'il y a dans mon livre, c'est que même après la mort du père, puisque le
continue
fils
à lui parler,
la maison, il arrive à retrouver son père.
Oui.
Comme finalement, dans toutes les vies, aucune d'entre elles n'est exempte d'espoir. Il y a toujours un espoir à la fin.
Et d'ailleurs, il y a cette réflexion du narrateur qui se dit « Ah, si si j'avais été retrouver tel ou tel de ces personnages, est-ce que ça aurait changé leur vie ou pas, notamment
qu'est-ce qui s'est passé, oui.
Oui, et on se dit que c'est toujours c'est ce questionnement qu'on peut avoir après coup, surtout que ce sont souvent des destins assez tragique, hein. Un accident de la route qu'on n'a pas pu éviter, dont on n'était pas responsable, hein, mais qui malheureusement broie un corps et aussi une famille. Un père décédé trop jeune qui fait que le petit dernier se retrouve plus dans la solitude du café et de l'alcool. Aussi l'alcool, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez certains, hein, de ces hommes et femmes seuls, hein.
Oui, dans deux des histoires, il y a une histoire d'alcoolisme. D'une part parce que le café était un endroit où on pouvait essayer de combattre cette solitude. Et d'autre part parce que c'est une façon de lutter, une façon illusoire de lutter contre ça. Oui. Enfin, j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre la dope, j'aurais pu prendre, oui. Bon, c'est tout ce qui est en l'illusoire fonction de lutter contre quelque chose qui est plus fort que vous, voilà. Mais il y a pas que ça, il y a également dramatique. Il y a également une jeune femme qui elle...
Elle a perdu aussi, c'est toujours une histoire de perte. Elle a perdu un grand frère dont elle était très très proche et qui va l'emmener dans certains abîmes dont on n'a pas finalement la finalité, parce que le narrateur justement se reproche de pas peut-être avoir raté un retour vers cette femme, même si d'un autre côté il se dit que finalement ça aura peut-être rien changé. Hein. Et là encore on voit quelques pas regrets, remords, je ne sais pas.
Un regret de qu'est-ce que j'aurais pu changer à ma vie, qu'est-ce qui aurait changé si je l'avais revu. Enfin, c'est, comment vous dire, ce sont les regrets que nous portons tous.
Oui, et puis il y a aussi cette solitude du monde agricole, hein. Ce vieux monsieur qui a une merveilleuse ferme avec des terres et qui se disait peut-être ça irait à mes enfants, mes petits-enfants, et puis il se retrouve veuf et puis la solitude prend le pas sur ses rêves.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'est très cher, parce qu'en fait je voulais raconter comment un monde est en train de disparaître, et un monde que j'ai connu qui est en train de disparaître, et ce monde-là je ne pouvais l'évoquer qu'à travers la figure qui n'existe pratiquement plus d'un vieil agriculteur qui a été assez aisé, qui a connu une certaine aisance dans sa vie, et qui s'est très vite aperçu que cette vie n'était plus possible, et qui a lui-même dirigé ses enfants vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, parce que ça, je l'ai vu beaucoup dans mon proche entourage, cette façon de dire à ses enfants, écoute, ne fais pas ce que j'ai fait, parce que c'était peut-être merveilleux, tu penses que c'est merveilleux, mais ça c'est fini, c'est plus la peine, quoi. Et donc j'ai voulu vraiment écrire ça.
Oui, puis il y a aussi cette question de sortir de sa condition. Le papa qui veut être mieux que ses propres parents, qui souhaite aussi que son fils, peut-être en faisant de belles études, soit enseignant comme lui, ça marche pas toujours. Il y a là aussi d'autres personnages qui on sent qu'ils veulent essayer de se sortir d'un monde, celui qui a eu l'accident de la route notamment, et qui malheureusement se voit bouleversé par ça, l'institutrice justement qui perd son frère, enfin à chaque fois ce sont un drame qui pourrait pour certains les faire rebondir et vivre une vie 100 fois plus différente que celle qu'ils vivent et dont le narrateur nous raconte cette solitude parfois triste, en tous les cas, qui fait beaucoup réfléchir. Mais en tous les cas, c'est un texte qui m'a bouleversé. C'est écrit avec beaucoup de sensibilité. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Ivarte, c'est votre deuxième roman. J'imagine que ça vous donne envie, maintenant que vous êtes retiré des affaires, si j'ose dire, d'en écrire d'autres.
Je pense. Mais bon, j'ai un peu plus de temps que j'en avais autrefois. Donc, j'imagine qu'il y en a d'autres qui suivront. Mais surtout, je vous remercie beaucoup d'avoir souligné que c'était quelque chose de bouleversant et qui malgré la gravité de la chose, c'était une leçon d'optimisme, une leçon de vie. Voilà.
Oui, et qui fait réfléchir. Lorsqu'on croise des gens qui marchent seuls, on peut s'imaginer quelle est leur vie et on se dit peut-être que nous-mêmes, quand on se voit le long d'une vitrine, c'est finalement peut-être notre propre reflet que l'on voit. Et dans notre société d'aujourd'hui, où il y a de moins en moins de bistrots, moins de cafés, plus de réseaux sociaux, une espèce d'apparente
relation. Absolument.
Et ça fait beaucoup réfléchir. Et puis en plus, on passe un très bon moment avec le narrateur, qui a aussi cette pointe d'espoir, d'espérance, lorsqu'il découvre un mot de son papa. Et c'est magnifique. Et c'est, je le rappelle, à Retro Éditions du Cherche Midi. Merci à vous, Yves Arthez. On rappelle le titre, Parmi d'autres solitudes. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, sa bouche, sa manifestation. Ça sort tous les samedis des pensées sans pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse, ça tout va, c'est beau le sein d'une fille. Ça camembert le chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus la joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovoy. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent, ça reste chez Renault, chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça flique quand même pas mal, ça repasse à tabac. Ça chauffe un peu dans les bas, je rentre à la casse-bas. Ça bouge sous les périphes, ça rôde encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ouais, c'est ça la France.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons Jean-Pierre Montal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre roman qui s'intitule La Face Nord. Il vient de sortir aux éditions Séguier. Et tout d'abord, peut-être pouvez-vous nous parler un peu de vous. Vous avez écrit récemment, l'année dernière, L'Heure Chamade, qui a reçu un prix, le prix Jean-René Huguenin. Et vous êtes à la fois écrivain et éditeur. Je dis pas de bêtises.
Non, tout est juste. Je suis éditeur, écrivain, romancier essentiellement, et La Face Nord est mon cinquième roman.
Alors justement, cette Face Nord, de quoi nous parle ce roman, à la fois, on va dire, d'amour, du XXe siècle, de l'histoire du XXe siècle, de cinéma?
Oui, écoutez, vous avez tout dit. C'est l'histoire très simple. C'est un homme qui rencontre une femme. Tous les deux se rencontrent à la sortie d'une séance de cinéma, une séance qui vient de projeter Elle et lui, le film de Léo Macaré.
Ah, vous peut-être rappeler l'histoire.
Oui.
C'est quand même Elle et lui. C'est quand même un grand classique dont
oui,
les jeunes générations peut-être ne connaissent pas.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un classique. C'est pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle le classique, la pierre fondatrice, si vous voulez, de ce qu'on appelle la comédie romantique, où certains y voient du mélo. Moi, je pense que Elle et lui, c'est très difficile à classer, parce que c'est un film superbe et très subtil. L'histoire est assez simple. C'est là encore, un homme et une femme se rencontrent sur un paquebot. Cette fois, pendant la traversée, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais petite difficulté, ils sont pris tous les deux, donc à l'arrivée du bateau, ils doivent un peu faire le ménage dans leur vie, se poser des questions quand même très importantes. Et pour ce faire, ils se disent, bon, on se donne rendez-vous dans 6 mois en haut de l'Empire State Building. Et 6 mois plus tard, l'homme est en haut de l'Empire State Building, la femme arrive en bas, mais elle se fait renverser par une voiture et elle ne pourra donc pas monter et l'homme ne le saura pas avant le dénouement que je ne révélerai pas pour donner un peu envie de voir ce chef-d'œuvre.
Et là, dans La Face Nord, on va croiser donc deux amoureux du 7e art. Lui, c'est Pierre, il a 48 ans et elle a un âge beaucoup plus avancé, si j'ose dire, elle a 62 ans. Elle s'appelle Florence. Et donc, ils vont se croiser lors d'une séance de d'une projection de ce film.
Exactement, ils se croisent à la sortie. Et puis, la conversation s'engage un peu sur le film. Alors, de façon tout à fait naturelle et banale. Mais il se trouve que, en parlant de ce film qui raconte une histoire d'amour, eux-mêmes tombent petit à petit dans leur propre histoire d'amour.
Et là, c'est aussi on va faire un retour en arrière avec l'histoire de cette femme, Florence.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que leur histoire d'amour ne va pas marcher. Alors, en grande partie en raison de la différence d'âge dont vous parliez. Alors moi, j'ai voulu parler de la différence d'âge sans parler de la... Souvent, quand on parle de la différence d'âge dans les livres ou les films, on parle d'un peu de la fascination pour la jeunesse. Et là, en l'occurrence, aucun n'est jeune. Ils ont 72 ans pour Florence et 48 ans pour Pierre. Mais quand même, cette différence d'âge est très importante et va poser pas mal de problèmes. On n'a pas les mêmes réactions, les mêmes envies, les mêmes projets à ces deux âges. Donc leur histoire va pas marcher, va capoter. Mais en revanche, quelques temps plus tard, Pierre va tomber sur un livre dans une librairie et ce livre racontera l'histoire. Il est écrit par Florence et Florence racontera un souvenir de jeunesse. Ce qui fait que Pierre va comprendre en lisant ce souvenir de jeunesse qui se passe à Vienne en Autriche dans les années 70, il va comprendre un peu mieux Florence et un peu mieux pourquoi leur histoire a échoué.
Et c'est là encore un retour dans ce XXe siècle, dans ces années là aussi un peu foisonnantes, les années 70, mais qui raconte encore une période beaucoup plus sombre de la première moitié du XXe siècle. C'est un roman qui, à l'image de Elle et lui, est assez cinématographique.
Oui, je pense, oui, tout à fait. C'est aussi un roman qui est un peu, comment dire,
C'est comme, vous savez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il y a plusieurs oui. cercles qui se créent autour de la pierre. Là, la première pierre, c'est ce qu'on s'est dit en début de conversation, c'est cette séance, la sortie de cette séance. Mais en fait, ce petit événement est entouré par plein de choses qui se sont passées dans le passé. Et c'est ça qu'on découvre, et c'est aussi pour ça qu'on plonge dans l'histoire, dans les années 70 et dans le Vienne d'après-guerre, la Vienne d'après-guerre.
Oui, on voyage beaucoup aussi avec votre ouvrage, oui. ce qui est aussi très bien, parce que c'est ce qui nous invite à l'imaginaire, hein, le livre, le voyage. Voyage, l'amour, les relations d'hier, d'aujourd'hui, peut-être même de demain, parce que on va pas raconter la fin, mais ça laisse percevoir de belles choses pour nos personnages et pour nous lecteurs, hein, parce qu'on a envie de découvrir, redécouvrir elle et lui, de s'asseoir en compagnie de nos deux héros, hein, Pierre et Florence, et peut-être à notre tour de rencontrer un amoureux de ce film et un amoureux de la vie.
Oui, parce que je pense que, en fait, mon but aussi, c'était de parler, en parlant d'Elle et lui, qui est un film que j'adore, hein, mais c'était aussi de parler de façon plus générale des œuvres qui nous accompagnent toute une vie. Mmh. On peut avoir un film, on peut avoir un tableau, un disque, une chanson, même tout simplement, un livre évidemment, mais il y a des œuvres comme ça qui nous suivent toute la vie et qui nous ont permis de tisser des liens, alors pas toujours amoureux, mais peut-être simplement amicaux avec d'autres personnes. Et je pense que c'est quand même une des dimensions de l'art, c'est que à partir du moment où on tombe dans une passion pour une œuvre, on rencontre des gens et des liens très différents peuvent se nouer.
Et avec lesquels on peut partager, si ce n'est cette passion, d'autres sentiments, d'autres valeurs, d'autres souvenirs. Hein. Et c'est un très beau livre, un vrai coup de cœur de cette rentrée littéraire. Et puis je vous le dis, hein, c'est à voir, à lire, mais surtout on se dit, on imagine, on visualise les personnages et on se dit à quand sur petit ou grand écran, tous les cas, on va vous le souhaiter Jean-Pierre Montal, et ah, en attendant on va se précipiter en librairie, découvrir La Face Nord, c'est par aux éditions Séguier. De celles et ceux qui voudraient vous suivre, êtes-vous sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va pouvoir vous rencontrer lors de rencontres dédicaces?
Alors, je vais faire quelques salons, mais de toute façon, oui, je suis sur les réseaux sociaux habituels à mon nom, Jean-Pierre Montal. Donc ceux qui ont envie de parler du livre, en bien ou en mal, d'ailleurs, je suis tout à fait prêt à en discuter.
Je crois que l'accueil est plutôt très bon. En tous les cas, c'est ce que j'ai pu voir autour de moi et j'ai pu lire aussi. Les gens ont adoré La Face Nord et ont vu dans ce texte une écriture fine, là encore très visuelle, et puis une histoire qui, si ce n'est bouleverse, en tous les cas, nous plonge dans une certaine nostalgie. Là, c'est la rentrée, il fait pas beau, et ben là, on va se réconforter en lisant ce très beau portrait d'un homme, d'une femme qui ont cette passion commune pour le cinéma et pour la vie et pour l'amour. Et c'est ce que vous nous faites découvrir, Jean-Pierre Montal, dans ce très beau roman, La Face Nord, je rappelle, paru aux éditions Séguier. Merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après ça, tout de suite.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. It personal, baby, if you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friend told me one day I'll feel it too, and until then I'll smile and hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner
in an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. Nous sommes en direct jusqu'à 19h et on retrouve notre invité Guénaël Daujon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule Le Jardin de Georges. C'est paru aux éditions Intervalle. Mais peut-être que certains connaissent déjà votre nom, car vous êtes déjà l'auteur de La Batz, un jeu de mots entre l'île où vous avez vécu et le nom est là-bas, hein, un jeu de mots avec
là-bas. C'est ça, c'est là-bas en fait. Hein.
Pardon, excusez-moi. Oui, on dit.
Oh, j'en prie.
Et vous nous faites repartir sur cette île pour découvrir le parcours d'un homme assez incroyable que vous-même vous avez découvert en habitant sur place.
C'est ça, exactement. En fait, moi, j'habitais à Paris, et puis, il y a quelques années, je suis partie vivre, donc, c'est sur cette île qui s'appelle l'île de Bas. L'île de Bas, elle est au large de Roscoff. C'est une petite île qui fait 3,5 km sur 1,5 km, un peu battue par les vents, dans la où il y a quand même pas mal de tempêtes. Donc c'est vraiment le Nord Finistère, c'est la Bretagne, hein, avant la Grande Bretagne. Et sur cette île, il y a un jardin à l'est de l'île, un jardin exotique avec des fleurs d'Afrique, du Mexique, d'Océanie, c'est un lieu foisonnant et magnifique. Et lorsque j'habitais sur l'île, régulièrement j'allais dans ce jardin parce que c'était un endroit qui me faisait voyager. C'est un endroit où il y avait une grande douceur et d'une immense beauté. Et à force d'aller dans ce lieu, je me suis intéressée au créateur de ce jardin. Et en m'intéressant à ce créateur, Je surmontais jusqu'à la fin du 19e et jusqu'à ce personnage qui s'appelle Georges de la Selle.
Et c'est incroyable, c'est un roman historique parce qu'on se plonge littéralement à l'époque, hein, de cet homme qui a créé ce jardin, évidemment qui a vécu une vie assez incroyable. Hein. On est fin 19e, début 20e, donc évidemment tous les bouleversements qu'a connu la France,
l'époque.
Et donc on va voir tout ce qui va lui arriver, hein, les aventures, les mésaventures, les obstacles qu'il va rencontrer, sa persévérance. C'est vraiment un homme passionnant, et puis ses rencontres avec des gens aussi passionnés que lui pour le monde végétal. À une époque, allô, on a un petit souci technique, on se touche après ça.
C'est la ville des amoureux.
Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emporte tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges. Bene, Alix, Fix et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se capte et qu'on brunch ensemble un de ces quatre. Qu'on se mate une expo au 104 Larry Clark. Pourquoi pas? Mais pas demain, car madame est surbookée, toujours bloquée sur son MacBook. Quand elle me dit qu'on peut se croiser sur Facebook, c'est le bouquet.
Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Elle habite Paris, c'est pas que je critique, c'est si différent. Passer le périphérique, c'est plus les mêmes musiques, les mêmes tuniques. Sa mère, ses potes et ses votes catholiques. Je la vois moins souvent parce que madame, oui, part à la mer pour Pâques. Ses amis ont des grandes baraques, Saint-Briac. Connais pas, moi ma ganache, tapache et mon accent. Je sais, ça fait sourire ses amis bien pensants. Et pourtant, je l'attends souvent dans le vent. J'aimerais qu'elle redevienne un peu.
On va retrouver notre invité Guénaëlle Dojon.
Oui, ça y est, la ligne est là.
Voilà, je suis désolée auprès de nos amis auditeurs et évidemment auprès de vous. On a des petits soucis techniques avec la ligne téléphonique. Je ne sais pas si ce sont des orages dans la région. On parlait donc de votre très beau roman historique, Le Jardin de Georges, qui raconte l'histoire de Georges Lassalle, qui, au tournant du XXe siècle, a créé un jardin formidable sur une île du Finistère, l'île de Ba, et que vous nous contez comme si on y était, avec tous les obstacles qu'il va rencontrer, le fait qu'il collectionne des graines du monde entier, car c'est un vrai jardin exotique. Hein. On n'y retrouve pas des plantes de Bretagne, pas seulement, en tous les cas, c'est un vrai petit bijou. Et puis, il va rencontrer des gens de ce monde de ce 20e siècle, notamment les Villemorins, un nom qui reste encore. Hein.
Ah ben oui, c'est-à-dire que beaucoup intéressé chez ce personnage, c'est que c'est vraiment un homme qui se transforme. C'est-à-dire que au départ, il est assureur, il est paysan, il a un rapport à la botanique qui est un rapport plutôt amateur, mais il a eu la chance de rencontrer cette femme assez extraordinaire qui s'appelle Mélanie de Villemorin, qui était la femme de Philippe de Villemorin. Et à l'époque, les Villemorin, c'était vraiment une très grande famille de graines. Dans un moment de grande révolution par rapport à la botanique. Philippe de Villemorin, c'est lui qui a initié l'hybridation des iris. C'est des gens qui étaient dans toutes les expositions universelles. Ils avaient vraiment un très très grand pouvoir et c'était des grands chercheurs. Et Georges Lassalle rencontre Mélanie Villemorin à Paris, mais il se lie d'amitié avec elle et du coup elle le prend un peu sous son aile. Et par son biais, il rencontre aussi un autre homme qui s'appelle Jean Thaddée Tiboski, qui était le directeur du jardin d'essai de Nogent-sur-Marne. Et par le biais de ces gens-là, aussi les pépiniéristes, qui s'appellent les pépiniéristes de Nabono, donc c'est la grande époque aussi des jardins de la Riviera, etc. Et puis, ben, on ne sait pas comment, enfin, si on sait, parce que c'est un ami qui l'amène à l'île de Pâques, mais disons que lui décide, et c'est là où il est vraiment particulier, c'est qu'il décide de faire un jardin, comme je vous disais, vraiment exotique, sur une lande de sable, battue par les vents, par le sel, et autant dire que le sable, le sel et le vent, ce sont les trois pires éléments pour faire un jardin. Et
je suis vraiment confuse, on a vraiment un souci technique avec la ligne téléphonique. Alors Guénoëlle Dojon, je rappelle, est l'autrice du Jardin de Georges. Ah, est-ce que... Ah, ça a coupé, décidément. Et on peut retrouver son roman aux éditions Intervalle. On va essayer de se retrouver pour pouvoir conclure cette interview. Vous l'avez compris, c'est un magnifique voyage sur cette île fabuleuse où il y a ce jardin extraordinaire et dont l'autrice nous conte l'histoire du créateur, un jardinier méconnu et qui, à travers cette folie douce, a réussi à faire de cette terre assez hostile, vous l'avez compris, un havre de beauté et de paix. Alors, on va essayer de retrouver notre invité. À tout de suite.
Vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenir avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas, restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music, et chaque semaine vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
En pause, allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière de la rue derrière, les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause, vêtue comme impose le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clients aisés. Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Elle joue son rôle et bien, je la regarde de loin, un peu dissimulée. Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur.
Alors, vous l'avez compris, c'est une émission un peu compliquée. Guénaël Daujon, notre invité, qui est avec nous, je crois. Vous êtes toujours là? Allô, allô? Ah. Est-ce que vous nous entendez? Oui?
Oui, je vous entends.
Ben voilà. Donc, vous l'avez compris, amis auditeurs, on a des petits soucis techniques. La liaison part, revient. Guénaël Daujon, on va la retrouver dans une prochaine émission pour nous parler de ce très beau roman, Le Jardin de Georges. On rappelle qu'il est paru aux éditions Intervalle, qui nous plonge dans l'histoire intime, passionnante de cet homme, Georges de La Celle, et puis qui dans ce roman nous rappelle le parcours d'un homme un peu fou, hein, parce que finalement, il faut être un peu fou, hein, pour avoir ce type de projet, et qui va, grâce à ses rencontres, grâce à sa ténacité, et faire de ce rêve un réel jardin, mais malgré tout qui va vivre aussi ce jardin de les méandres, hein, de l'humain, des affres de la nature et de ce 20e siècle, qui va pas le laisser exempt de blessures. C'est ce qu'on on va parler dans un prochain interview, car vous l'avez compris, Guénaël Daujon, on a des petits soucis techniques. Merci pour votre compréhension, et en attendant, on va appeler nos amis auditeurs à aller en librairie découvrir Le Jardin de Georges, et à vous retrouver aussi aux éditions Intervalle, pour celles et ceux qui sont sur internet, éditionsintervalle.com. Merci à vous, Guénaël, et puis à très vite pour nous rappeler l'histoire extraordinaire que vous avez écrite, celle de Georges de La Celle dans Le Jardin de Georges. Merci à vous, et encore une fois, toutes mes excuses.
Eh ben, je vous remercie beaucoup.
À bientôt. Merci, au revoir.
À bientôt.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. En meurtre.
semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me prends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 di la 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 di la la di la 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 di la la di la la di la 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 di la 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 di la la di la 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 di la.
IDFM Radio. Le média valdoisien.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenir avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres en direct, vous l'avez compris. Et nous sommes avec Christian Laborie, bonjour.
Bonjour.
Alors j'espère vraiment que ça va bien se passer parce qu'on a des petits soucis techniques, je le rappelle pour nos amis auditeurs, j'en suis vraiment très désolée. Alors vous êtes l'auteur Christian Laborie des Couleurs de l'oubli, paru aux éditions Presse de la Cité. Et on vous connaît pour de nombreux autres romans, notamment Le Retour d'Ariane, le prix de l'Académie Sévenol pour Le Cabri d'Or, c'était déjà il y a quelques années. On vous doit une trentaine de romans. Et ce dernier est Les Couleurs de l'oubli, qui nous plonge au début du XXe siècle, notamment à Aigues-Mortes, une région que vous connaissez très bien.
Oui, parce que Oh là, il y a un retour dans le téléphone, effectivement.
Alors dites-moi, vous l'avez toujours ?
J'habite au pied des Cévennes à, je vais dire, même pas une heure et demie d'Aigues-Mortes.
Et vous avez choisi donc de compter les couleurs de l'oubli dans cette région ?
Oui, parce que je n'avais jamais prospecté par là mes romans, j'allais dire. Et donc c'est une région qui m'intéressait, d'autant plus que j'avais envie de parler d'un événement historique qui s'est passé à Aigues-Mortes, que tous les habitants de la région connaissent dans les Salins du Midi. Il s'agit du massacre massacre des Italiens en 1893 dans les Salins du Midi. Et cet événement, bon, que les gens de la région connaissent, bon, j'avais envie effectivement de l'introduire dans un de mes romans. Ceci dit, j'ai fait une petite entorse à l'histoire. Moi, je l'ai déplacé de 30 ans puisque dans mon roman, ça se passe en 1923.
Alors justement, l'Italie et un personnage italien va être au cœur de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qui s'est passé dans cette Italie du début du XXe ?
Ben, moi, ce qui m'intéressait dans les années 1920, c'était la montée du fascisme en Italie, à l'époque de Mussolini. Et je savais qu'il y avait il y a eu des dissidents italiens, des résistants, on peut dire, au fascisme italien qui ont passé la frontière, qui sont réfugiés en France. Et donc, j'avais envie de mettre en scène, effectivement, un de ces personnages. Et ça m'intéressait d'autant plus qu'il soit italien, parce que dans les salins du Midi, il y a eu, à la fin du 19e siècle, il y a eu pas mal d'Italiens qui sont venus travailler. Bon, alors, du coup, moi, comme mon roman se passe dans les années 1910, 1920, 1930, quand on est dans la décennie 20, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'un Italien, et qu'est-ce que vient faire cet Italien ? Pour moi, il fuit le fascisme. Voilà, c'est venu tout naturellement. Ça m'a permis un peu de camper le personnage aussi par rapport au fascisme mussolinien qui est en train de s'installer en Italie.
Alors, voilà. Cet Italien, il s'appelle Vincenzo. Il va arriver un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles. Arriver dans une famille.
Oui, on peut dire parce que là, quand vous parlez tout de suite de Vincenzo, mais avant qu'il n'arrive, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'il arrive alors que le couple le plus important du roman, enfin dans la le Emma et Emma Lacombe et Florian Nozière, ça fait 14 ans qu'ils se sont rencontrés. Oui. Ils ont plusieurs enfants.
Oui, Emma, elle est veuve. Il faut qu'elle refasse sa vie parce qu'elle est jeune et puis qu'elle a une certaine condition, hein, une certaine fortune, et elle va croiser et épouser un Florian qui est une personnalité importante de la région parce qu'il est politique. Et on se dit que c'est évidemment. Vous m'entendez ? Oui ? Allô, allô ? J'ai entendu j'ai cru avoir une coupure. Et donc, ce couple à qui on pourrait penser que tout va bien, la société, le monde qui les entoure, la famille qui s'agrandit, bref, on pense que tout va bien pendant cette dizaine d'années, et on peut le croire. Hein.
Oui. Oui, alors. Si on prend le roman au départ, donc j'ai voulu, je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, j'ai voulu donc raconter mon histoire dans les salins de la région d'Aigues-Mortes. J'ai imaginé effectivement une jeune héritière, 24 ans, elle est veuve et elle hérite de son mari d'une entreprise de saline. J'ai appelé cela les salins du Sud. Les salins du Midi, ce n'est pas qui existe vraiment, ce n'est pas l'histoire des salins du Midi qui est racontée. Et donc cette jeune veuve va rencontrer un homme un peu plus âgé qu'elle. Hein, Florian a 15 ans de plus à peu près, pas tout à fait, mais enfin il a 35 ans. Et donc c'est un amour, un grand amour qui les unit de suite.
Un enfant.
Emma a une sœur jumelle, ça peut être Julie.
Oui, elle, malheureusement.
Et qui va avoir un destin tragique.
Oui.
Et puisque tous les trois, le couple et la sœur jumelle de Emma, vont s'embarquer en 1912 sur le Titanic pour faire une croisière vers les États-Unis. Et bon, on sait très bien ce qui s'est passé avec le Titanic. Emma et son mari vont en réchapper et
pas cette sœur.
L'histoire dit que la sœur jumelle va périr en mer. Bon, je voulais aussi introduire dans le roman une catastrophe. Alors, j'ai cherché dans les années 1910 une catastrophe. Ça m'a sauté aux yeux. Le Titanic, il y avait tellement de choses à raconter sur le Titanic. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Il y a tellement de littérature. Bon, donc moi j'en ai fait deux chapitres, en gros, deux ou trois chapitres, où on va être plongé pendant ce temps-là au cœur du Titanic avec tout le faste qui qu'on imagine fort bien, et puis la catastrophe que j'ai raconté comme on peut la lire partout, autant dans les documents historiques que dans les fictions. Donc ça c'est un moment bon. J'aime bien introduire des rebondissements dans mes romans pour que. Et puis j'en avais besoin parce qu'en fait dès le départ, alors je ne veux pas trop dévoiler le roman. Je suis parti de l'idée de traiter le thème de l'usurpation d'identité.
Ah oui. Ça.
Alors, pour traiter ce thème de l'usurpation d'identité, il me fallait une catastrophe. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Il me fallait une catastrophe, et cette catastrophe, donc, je l'ai dit, dans les années 1910, ça m'est sauté aux yeux. De suite, ça a été donc le naufrage du Titanic. Alors, mes personnages en réchappent, et à ce moment-là, ils ont déjà un enfant, et cet enfant, va avoir une adolescence un petit peu troublée, parce que sa mère va être pas mal perturbée à la suite donc de ce naufrage. Elle en réchappe avec son mari et elle va être très perturbée psychologiquement et elle ne va plus être la même après le naufrage qu'avant. Et sa fille donc va en souffrir beaucoup. Et il va se passer donc des conflits au sein de la famille vont poser beaucoup de questions. Voilà. Et là, j'ai introduit progressivement un secret de famille. Alors, j'aime bien dans mes romans introduire toujours un secret de famille. Et ce secret de famille, bien, c'est justement notre Italien Vincenzo qui va s'y coller et qui va finir par le découvrir. Et là, à la fin du roman. Il ne faut pas que je dise trop pour ne pas dévoiler l'intrigue.
Voilà, et justement, le fait qu'il y ait ce secret, qu'un étranger en plus, italien, le perce à jour dans un monde très polarisé, politisé avec donc notre père de famille, Florian, qui est un homme politique important. Il va y avoir des menaces d'expulsion, évidemment des menaces de mort, et évidemment cette histoire amoureuse aussi entre l'enfant et puis cet Italien. Et puis il va y aussi y avoir cette ombre du fascisme et de ce qui va arriver sur la France. On va pas dire que ça se termine bien, si, on peut dire qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a une certaine morale à la fin.
Je peux vous dire que le roman se termine bien, comme tous mes romans, parce que je n'aime pas qu'un roman se termine mal. Alors, je fais toujours, même si parfois, il y a des moments un peu sombres, même si on est parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui puisse s'arranger, je m'arrange toujours pour faire... comment je vais dire, je vais pas dire une pirouette, mais je m'arrange toujours pour qu'un événement vienne au fond arranger les choses.
Et qu'il y ait beaucoup d'espoir et de l'amour.
Ouais, voilà.
Et c'est ce qu'on découvre dans Les Couleurs de l'oubli. Vous l'avez compris, on découvre cette première partie du XXe siècle avec des catastrophes, comme le Titanic, et qui va faire sortir des forces de vie, au contraire, les pires valeurs de l'homme. Et c'est ce qu'on découvre dans Les Couleurs de l'oubli, avec en fond cette montée du fascisme à travers un personnage notamment qui vient d'Italie, qui fuit ce fascisme, dont la France est encore un peu exempt, même si on voit que nos héros commencent à s'interroger.
Ce qui me concerne, ce sera après 1934.
Voilà.
On va assister à la même chose. J'ai déjà d'ailleurs traité dans certains de mes romans, je ne me souviens plus, cette période de la montée du fascisme en France. Dans les années 34, ça débouche sur le Front populaire en 36, et puis après, c'est la course à la guerre. On sait que le fascisme dans les années 20, en Allemagne, c'est un petit peu après d'Italie, et puis on sait où ça a mené. Donc j'aime bien cette période. En tant que professeur, ancien professeur d'histoire, j'aime bien traiter cette période parce qu'elle nous touche. Moi, je pense qu'elle nous touche aujourd'hui.
Oui, elle fait beaucoup écho à notre actualité.
Elle devrait faire réfléchir beaucoup plus de monde qu'elle ne semble faire réfléchir.
Et c'était,
on devrait tirer davantage les leçons de l'histoire. Voilà. Et c'est pour ça que Je ne veux pas donner de leçons, moi. Je n'ai pas de leçons à donner dans message à passer, je veux dire, dans mes romans. Mais en tant qu'ancien prof d'histoire, j'aime bien rappeler un petit peu notre histoire aux gens qui me lisent.
Et
ils apprécient d'ailleurs.
Voilà. Et c'est une merveilleuse invitation à partir il y a un siècle dans le sud de la France avec les couleurs de l'oubli. Merci à vous, Christian Labruche. Je suis désolée. On arrive vraiment au terme de l'émission. J'ai pas envie qu'on nous coupe. Déjà qu'on n'a pas eu de problème technique. D'ailleurs, je rappelle, je suis vraiment désolée auprès de nos amis auditeurs. Merci à vous, Christian Labourie. On rappelle, Les couleurs de l'oubli, c'est votre dernier roman et c'est paru aux éditions Presse de la Cité. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Et on se quitte à la semaine prochaine sur les ondes d'IDFM Radio.